France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors avec vous Thibaut, on reste en montagne, mais pour une expédition philosophique cette fois. Hein.
Oui Ali, parce qu'il y a ceux qui sont déjà à la montagne, ceux qui vont peut-être bientôt y partir pendant ces vacances-là, et puis il y a ceux qui iront au printemps, ou cet été, ou plus tard encore à un moment de leur vie. Parce que la montagne, c'est un élément de notre géographie terrestre, elle est présente dans les paysages de très nombreux pays, mais comme la mer, la forêt ou le désert, elle inspire aussi une expérience singulière. Elle est là, à l'horizon, comme un espace de liberté à conquérir, mais aussi comme une limite ou une frontière ou un obstacle, et parfois aussi et même souvent comme un danger. Nous allons donc face à plusieurs sentiers pour la gravir philosophiquement. Il y a un sentier éthique du défi qu'elle incarne, le sentier épistémologique de sa définition, on va expliquer tout ça, le sentier métaphysique de l'inspiration et le sentier écologique de son équilibre.
Et on va tous les emprunter. Hein.
Oui, parce que vous allez me donner beaucoup de temps à lire pour les emprunter. Vous allez voir, ça va être rapide. Disons que je vais juste vous indiquer la couleur du balisage de chacun de ces sentiers, et puis ça sera à chacun et à chacune d'entre nous ensuite, s'il le souhaite, de les emprunter en continuant d'y réfléchir. Le sentier éthique d'abord. Que l'on marche ou que l'on grimpe, la montagne se présente comme un défi à notre liberté, et son ascension est l'occasion d'un apprentissage singulier.
Parce qu'en montagne, il n'y a que les derniers 10 mètres qui comptent, et au fond, ce sont les plus difficiles. Donc, comme discipline de vie, comme éthique, c'est très important. Et je pense que cette conquête de la montagne a eu beaucoup d'influence sur mon comportement dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire, quand les choses sont difficiles, je ne les abandonne pas, je serre les dents, et puis je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout, même si c'est extrêmement pénible.
C'était donc le témoignage de l'architecte et designeuse Charlotte Perriand, grande montagnarde. La montagne exige de nous, dit-elle, une force de caractère, une détermination qui forme et transforme notre liberté. Voilà le paradoxe, hein. Pour beaucoup, la montagne, c'est un espace de liberté, mais ce ne l'est qu'à la condition d'en affronter les difficultés et les défis. C'est en s'y confrontant comme un obstacle qu'elle révèle la puissance de notre agir. Deuxième sentier, le sentier épistémologique. Alors épistémologique, c'est un gros mot pour désigner la connaissance que nous pouvons avoir d'une chose. Et pour la montagne, eh ben, on a un problème de définition. Parce que si on voit bien tous où elle se termine, la montagne, c'est-à-dire au sommet, on voit pas très bien où elle commence. Sur les côtés, on va parler de chaînes, de contreforts, et puis vers le bas dans la descente. Quand est-ce qu'on arrive vraiment en bas de la montagne? Au niveau de la vallée? Ou bien plus bas encore, en descendant jusqu'au niveau de la mer? Mais dans ce cas, la montagne serait bien plus grande qu'il n'y paraît. Alors évidemment, j'exagère un peu, mais voyez, on pourrait multiplier les questions autour de cette définition géographique de la montagne, parce qu'elle paraît beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est comme s'il y avait, en fait, davantage à propos de la montagne, une question de continuité et de passage que de rupture et de frontières. Et puis, décider de marcher en montagne, de gravir un sommet, c'est une expérience métaphysique. Voilà le troisième sentier. L'ampleur de la montagne, sa radicalité, nous renvoie très vite à la fragilité de notre existence, nous, de tout petits scarabées. On se mesure à plus grand que soi, comme le silence, vous savez, de ces espaces infinis qui effrayaient le philosophe Pascal quand il pensait à l'univers. La montagne, comme le désert d'ailleurs, tient une place particulière dans les récits religieux partout dans le monde. On s'y retire, on s'y élève, on y contemple mieux le monde et soi-même en retour. Et puis, qui apprend à voir la puissance de la montagne, apprend aussi à voir sa fragilité. Comme bien d'autres paysages et écosystèmes naturels, la montagne repose sur un équilibre subtil, fait par exemple de fleurs d'altitude fragiles, de glaciers monumentaux mais vulnérables et d'animaux singuliers. C'est le sentier écologique sur lequel attire notre attention l'un des pères de l'écologie contemporaine, Aldo Leopold, dans un texte que je vous recommande, « Penser comme une montagne ». Alors bien sûr, les montagnes ne pensent pas, mais rien n'empêche d'essayer d'adopter leur point de vue, et c'est même nécessaire pour qu'elles puissent continuer de nous faire rêver et d'être le terrain d'exploration de notre propre liberté.
France Inter.